Bonjour les artchimistes, je suis en direct live des locaux de Hay pour les publications. Voilà, donc avec en face de moi Anne, que je retrouve. Mais alors cette fois-ci, nous allons parler de l'exposition sur le tatouage, tatoueur tatoué, qui au Quai Branly, que nous avons déjà chroniqué. Et bonjour Anne, merci de nous recevoir. Donc ma première question portera sur. Le tatouage qui est une longue histoire d'amour pour toi et Julien, puisque ça fait très longtemps que vous rédigez sur le sujet. Il y a eu énormément de publications dans Modern Art et Pop Culture. Il y a eu les expositions à la Halle Saint-Pierre où il y avait des tatoueurs qui étaient cités. Comment ça s'est généré? Enfin, en gros, d'où vient cette histoire d'amour? Et comment vous êtes passé du tatouage proprement dit, puisque vous êtes tatoué vous-même, à la publication, aux expositions, à cette exposition spécifique? Comment ça s'est généré?
D'abord, le tatouage, le tatouage fait partie, on va dire, de notre iconographie familière depuis l'adolescence. Et Julien et moi, avons réussi à générer une occupation, une activité, un travail, appelez ça comme vous voulez, de nos propres passions. Mm-hmm. Donc nous, on a l'habitude de défendre en fait ce qu'on aime, becs et ongles. Il se trouve que nous, on est bien et on s'épanouit dans les marges. C'est toujours là où on s'est retrouvé, que ce soit musical, graphique. Donc le tatouage en fait partie. Donc cette iconographie-là, elle est dans nos vies depuis longtemps. Et il était très naturel et normal pour nous de l'intégrer dans la ligne éditoriale de la revue, au même titre que la peinture, la sculpture, la bande dessinée, le dessin, tout cet univers-là en fait qui nous plaît et qui nous parle. Donc le tatouage a toujours fait partie intégrante de notre discours, de notre langage, de ce qu'on a généré, voilà. Et comme vous le disiez, on a de fait intégré du dessin de tatoueurs, de très très grands tatoueurs historiques, dans les deux premières expositions, au musée de l'Halle Saint-Pierre à Paris. Et le musée du Quai Branly, lui, de son côté, avait très envie de faire une exposition sur le tatouage, en fait, depuis longtemps, puisque ça fait partie aussi de ses missions et de la façon dont ils illustrent, on va dire, des sujets qui les intéressent à travers ce qu'ils appellent des expositions transversales. Donc nous, on fait partie, en fait, de cette espèce de courant-là au musée du Quai Branly. Ils ont vu le travail qu'on a fait. Je pense qu'ils ont pris la mesure des connaissances qu'on avait du terrain et du sujet et qu'ils ont subodoré qu'on était capable de pouvoir faire une exposition inédite et intéressante, qui soit en tout cas aussi intéressante et claire pour le grand public que pour les gens qui commencent à connaître le sujet ou qui sont dans le sujet déjà, voilà. Donc on s'est rencontrés, ils nous ont fait cette proposition et nous l'envie d'une exposition telle que celle qui est générée au Quai Branly, on l'avait déjà depuis longtemps, mais on n'avait ni le partenaire, ni on l'avait dans les tiroirs. Donc on a dit oui tout de suite. Le projet, on l'a écrit très très vite, on l'a imaginé très vite. Et puis voilà.
D'accord. Et à ce point, alors justement. Vous avez, enfin, pour monter cette expo, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même beaucoup de thématiques. Il y a l'aspect géographique, d'ailleurs, qui était représenté par cette carte à l'entrée de l'expo, qui est absolument incroyable, où on voit justement, il y a un axe, disons, historique, un axe géographique, et où on voit comment ça a évolué. Il y a aussi cette carte, enfin, cet arbre généalogique des tatoueurs qui ont assuré le glissement entre le tatouage marginal, le tatouage ethnique, et puis le tatouage artistique. Comment vous avez travaillé, en fait, pour monter une expo avec toutes les thématiques orchestrées et montrer vraiment ce qu'est le skin art? Comment vous avez géré ça, le choix des thèmes, sachant qu'en plus, c'est une équipe qui était composée de plusieurs expertises avec, je crois, il y avait un anthropologue, etc. Comment ça s'est goupillé? Quels problèmes vous avez pu rencontrer, en fait?
Le projet s'est écrit de façon assez simple, puisqu'on a une vraie connaissance du sujet. Et ce qu'on voulait défendre, en fait, la base de l'exposition, c'était... En fait, le questionnement de l'exposition, c'était comment est-ce qu'on allait réussir à dévoiler aux gens une histoire opaque et très méconnue, sinon inconnue, qui est l'évolution du tatouage moderne et contemporain. Le tatouage, d'un point de vue anthropologique et ethnologique, étant déjà observé depuis très très longtemps. Donc le parcours en fait de l'exposition a l'air assez complexe, mais est en fait une espèce de fil très très fluide et direct. Mm-hmm. Quand on connaît en fait toute cette histoire-là, la chose se pose de façon relativement évidente, on va dire. On a travaillé avec un anthropologue qui s'appelle Sébastien Gaillot, ce fut vraiment un plaisir de travailler, qui a vraiment aussi une très grosse connaissance du sujet, et qui lui a assuré, on va dire, toute la partie anthropologique, ethnologique, parce que de toute façon il fallait passer par là. Mmh. C'est une espèce d'introduction à la très grande histoire qu'on allait pouvoir dévoiler ensuite. Et puis il a aussi assuré toute cette partie extrêmement importante du renouveau du traditionnel. Voilà, donc on a travaillé très très bien avec lui. L'autre personnage en fait de l'équipe, c'est Tintin, le tatoueur, qui lui a assuré toute l'expertise technique et le suivi technique des volumes qu'on a mis en place, puisqu'effectivement on voulait non seulement expliquer aux gens tous les mécanismes de cette histoire très récente, mais qui donne le tatouage que tout le monde connaît aujourd'hui, mais on voulait aussi représenter de façon intelligente le travail de tatoueurs contemporains, de tatoueurs qui comptent, de maîtres tatoueurs. Comment faire pour le faire de façon savante, on va dire dans le sens littéral du terme. Donc on est passé par les volumes, il a fallu inventer chimiquement, on va dire, une formule en studio pour mettre en place ces volumes de façon correcte. Et Tintin a été là non seulement pour tester la matière, pendant 6 mois il a testé pour voir si l'encre rentrait dedans, si l'encre ne se diluait pas, si elle n'allait pas s'effacer au bout d'un certain temps, tester aussi l'épaisseur, la densité, ce qu'il était important pour nous en termes de volume, pour ces volumes en tout cas, de ne pas violenter trop les maîtres tatoueurs auxquels on allait confier ces volumes, donc qu'ils aient une approche aussi du médium, enfin du support pardon, qui ne soit pas trop éloigné, ça reste quand même une matière inerte, mais qui ne soit pas trop éloigné de la densité de l'ossature, etc. Voilà. Donc, Tintin a assuré en fait cette partie-là. Donc, le parcours, assez simple finalement, enfin en tout cas, ça coulait de source pour nous. Après, il a fallu le dédensifier, parce que ça a fait très peur au musée quand on est arrivé avec la proposition finale. On aurait pu remplir 3 fois ce que vous pouvez voir actuellement au musée du Quai Branly. Donc ça a été après tout un aller-retour, un process de travail très resserré avec l'équipe de production du musée du Quai Branly, qui est très très efficace, qui a l'habitude de monter je ne sais pas combien d'expositions par an, grosses expositions. Donc ce sont des gens très passionnés, très capables et qui travaillent beaucoup. Voilà, donc l'exposition s'est faite vraiment en 2 temps. D'abord l'écriture, le concept. Ensuite, la prise en main de l'équipe en interne par rapport à ce concept. Et après, la livraison, on va dire, de ce concept aux équipes de production du musée du Quai Branly.
D'accord. Et alors, à partir de là, parce que, bon, on a vu, il y a des pièces remarquables, des dessins qui ont été faits, etc., des œuvres qui datent de très très longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, vous êtes tatoué vous-même, vous aussi bien que Julien. Tintin, lui, il pratique, etc. Vous avez fait tatouer des pièces de maître, je suppose. Comment votre rapport à l'aiguille, parce qu'on sait très bien qu'il y a un avant et un après tatouage et que le passage à l'aiguille change complètement la perception qu'on en a au niveau de la création de l'œuvre. C'est une œuvre qui se pose sur un corps, vous en parliez justement avec ses volumes. Comment votre expérience de l'aiguille a enrichi votre approche, votre connaissance connaissance du secteur et votre vision du tatouage, non plus en tant que marquage ou appartenance ethnique ou choix marginal, peu importe, mais en tant qu'œuvre d'art. Comment ça a changé les choses ?
Le sujet tatouage n'est pas un sujet que vous pouvez comprendre, en tout cas aborder et ensuite comprendre, sans avoir une grosse expérience de terrain. C'est la particularité en fait de ce sujet. Vous ne pouvez pas avoir une capacité généraliste et tout d'un coup vous targuer de raconter le sujet de façon réelle. Quoi. Donc quoi qu'il arrive, pour pouvoir et avoir de toute façon envie de faire une exposition telle que celle-ci, il fallait avoir déjà il faut vivre le tatouage. Le tatouage se vit. Il se vit avant d'être raconté, avant de pouvoir être raconté. Parce que sinon, vous passez à côté du sujet. Donc, de toute façon, de façon naturelle, en fait, on a navigué sur ce territoire-là facilement une quinzaine d'années, mmh. avant de pouvoir faire une exposition comme ça. Voilà. Mmh. Donc, cette réponse est assez radicale. Mmh. Mais le Quai Branly, en fait, Stéphane Martin, du Quai Branly, connaît très bien le sujet et le sait. Et je pense qu'il attendait des gens qui soient capables de faire un commissariat d'exposition très sérieux et scientifique, tout en étant totalement impliqués et implantés sur le territoire du tatouage. Mmh. Mmh. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont attendu aussi longtemps pour faire cette exposition-là. Ouais. Stéphane Martin attendait vraiment de rencontrer les gens qu'il savait, qu'il pensait, qu'il subodorait, capables.
Et puis on
ne peut pas parler de tatouage sans l'avoir vécu et sans le connaître réellement et sans être totalement impliqué.
Oui,
où on est à côté de la plaque, on est à côté du sujet. Où on fait une exposition uniquement anthropologique ou ethnologique ou sociologique, ce qui a déjà été fait. Là, cette exposition, maintenant que le vernissage est passé et que j'ai beaucoup discuté principalement avec Edardi, qui est, on va dire, une des plus grandes sommités en termes historiques du tatouage actuel, qui est un tatoueur américain énorme par qui est passée toute l'installation de l'architecture du réseau international tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lui a commencé dans les années 60 et il a installé ça dans les années 70 et 80. Lui-même m'a dit très sérieusement que c'était le type d'exposition qu'il attendait depuis 60 ans, depuis qu'il a commencé à travailler. Donc je suis capable aujourd'hui de dire que pour tout ça, on ne s'est pas trompé. C'est une première mondiale, on est très très fiers de ça, et on n'est pas passé à côté du sujet. Mais on n'est pas passé à côté du sujet parce que nous-mêmes le vivons de façon différente et de toutes les façons possibles, on va dire, depuis des années, des années, des années.
Et puis vous tenez au courant parce que je vous ai déjà croisé sur le mondial, enfin vous êtes tout le temps dans les salons, vous êtes en connexion avec les tatoueurs sur le terrain, donc forcément c'est un sujet qu'il faut complètement renouveler régulièrement parce que aujourd'hui comment vous repérez, parce qu'il y a des artistes, des valeurs émergentes, on peut Navette par exemple, il y avait c'est Philippe Lieu.
Philippe Leu, oui,
voilà, qui a fait des modèles. Bon, Tintin, effectivement, on peut en citer plusieurs, Maud Dardot, etc. Comment vous les repérez ? Comment vous repérez des tatoueurs qui ont valeur d'artiste par rapport à des tatoueurs qui font juste un dessin, etc. Est-ce que ça peut se différencier ? Si oui, comment ?
On travaille très très différemment que sur la peinture ou la sculpture. On ne repère pas en fait les tatoueurs. Le travail émerge tout seul. Vous parliez de Jean-Luc Navette. Jean-Luc Navette produit depuis les années 90. Donc il a l'air d'être très neuf et très nouveau, mais il ne l'est pas du tout pour quelqu'un qui arpente en fait le territoire. Vous parliez de Philippe Leu. Philippe Leu, lui, a éclaté, on va dire, en plein jour. Hein. Son talent s'est épanoui totalement dans les années 80 et 90. Donc on connaît bien aussi son travail. Voilà. Pour parler des jeunes générations, c'est beaucoup plus complexe parce que avec la popularisation du sujet et l'ouverture, on va dire, des frontières, l'occupation, l'occupation du sol est beaucoup plus multiple et tout et n'importe qui rentre dans le métier, donc il va falloir attendre un peu avant de savoir réellement les gens qui sont intéressants. C'est un travail d'observation, hein, on peut pas. Il est très rare que. En tatouage, vous ne pouvez pas faire votre pièce, la meilleure pièce, la pièce magnifique au bout d'un an ou deux ans de tatouage.
Ça prend du temps,
Ça prend beaucoup de temps.
Ouais, bah oui. Alors justement, vous abordiez ce côté de démocratisation et d'arrivée de nouveaux tatoueurs dans le secteur. C'est une conversation que j'ai eue avec Tintin lorsque je l'ai interviewé pour faire la jonction entre le mondial et l'exposition. Et justement, il me disait qu'il avait quand même peur d'une démocratisation, d'une ouverture à tout va, à tout vent, etc. Et voire même d'une banalisation avec des chaînes de tatoueurs franchisées, etc. C'est quelque chose qui, visiblement, il redoute. Et donc, il travaille beaucoup à la mise en place d'un statut d'artiste. Donc, justement, en quoi cette exposition peut appuyer l'évolution du statut proprement dit vers une législation, une reconnaissance légale, etc. Comment ça peut se goupiller, selon vous ?
Elle appuie le propos de fait, puisqu'elle raconte comment d'un terrain artisanal, le geste a glissé en territoire artistique. Il a glissé en territoire artistique à partir de la période où le tatoueur a commencé à questionner le motif, qui l'a amené à questionner la composition, qui l'a amené à questionner la pièce en fait tout entière. Donc quand vous avez une lecture, quand vous cherchez une lecture uniquement artistique du sujet dans l'exposition, vous la trouvez à travers ce qu'ont réussi à accomplir les grands pionniers. Donat Sutherland par exemple était londonien, enfin en tout cas il s'est installé à Londres, son shop date de 1880-90, et lui a été très vite appelé le Michelangelo du tatouage. Il a non seulement il a amené un trait extrêmement propre, donc il s'est posé la question en fait de l'esthétique du motif, et puis ensuite il a enrichi ses couleurs. Beaucoup des pionniers ont vraiment questionné le motif de façon extrêmement sérieuse et puis après ont eu une lecture transversale entre ce qui se faisait au Japon, ce qui se faisait dans les îles, ce qui se faisait chez eux. Aujourd'hui on est sur un questionnement, une observation puis un questionnement de l'école française du 19e siècle et de l'école russe du 20e siècle avec des fusions. Donc on est sur les mêmes mécanismes, les mêmes problématiques que les débuts ou on va dire les avancées de n'importe quel courant artistique. Et par contre, on est dans un dynamisme, on observe un dynamisme vraiment, je dirais même presque agressif, puisque c'est une histoire qui s'est développée très 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 en longueur, et à partir du 19e siècle, elle a totalement explosé. Nous, on a le sentiment aujourd'hui de regarder le tatouage qui est en train de se populariser à outrance, d'être instrumentalisé par toutes les grandes chaînes de commercialisation de produits divers et variés. Voilà, on est dans l'observation de cette chose-là, mais. Mais en fait, le tatouage a déjà vécu ça deux fois, depuis le 19e siècle. Donc, ce dynamisme, c'est le dynamisme en fait du secteur qui est vraiment intéressant. Je comprends les craintes de Tintin, mais c'est aussi ce qui va faire que les gens les plus engagés, les plus impliqués et les plus talentueux du métier vont réagir, et je pense que c'est aussi grâce à eux que va s'installer très posément et calmement un vrai statut d'artiste tatoueur. Cette période là me fait penser vraiment à une période très précise de l'histoire de la musique, où le DJing est arrivé, où l'art du mix et du sample sont arrivés avec l'art du digital et la transformation des studios d'enregistrement et de diffusion musicaux. Et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup battu en fait pour le statut du DJ. On n'imagine pas, maintenant on n'imagine plus que même au début des années 90, le DJ n'avait pas de statut d'artiste et que au début du hip-hop, mais même à l'avènement du hip-hop, à la fin. Au début de l'avènement du hip-hop, donc à la fin des années 80, le sample était sujet, le sample musical, donc était sujet à de multiples procès partout dans le monde. Donc voilà, donc cette chose s'est régularisée, s'est régulée, on va dire, et maintenant est sous le coup d'une législation en 10 ans. Donc je pense que Tintin, des gens comme Tintin, en fait, sont très importants parce qu'ils œuvrent très concrètement. À cette chose-là, il en faut. Il est le seul en France, enfin avec son équipe, avec son cercle rapproché, ils font un travail très sérieux. Et bon, moi, j'ai assez confiance en fait en ça.
Tout à fait, oui.
Et après, c'est aux gens de, c'est aux gens d'aller là où il faut.
Oui. Voilà. Ouais, d'être c'est informé tout. Pour aller choisir.
On est dans un monde de tout consommation, donc c'est un monde qui avale tout de ce point de vue-là. Donc après c'est vraiment au consommateur, c'est au porteur, on dirait de tatouage. Donc on est ou porteur ou consommateur. Choisissez votre camp par rapport au tatouage. Il va y avoir deux façons d'aller se faire tatouer, c'est clair.
Ouais. Alors justement, j'en arrive à ça. Qui dit statut d'artiste dit reconnaissance du tatouage comme une œuvre d'art. Et on s'est posé la question, je l'avais demandé à Tintin, est-ce qu'on ne pourrait pas aboutir, sachant que le monde de l'art est complètement fait l'objet d'un marché, on en avait parlé quand on s'était rencontré pour l'exposition A numéro 2. C'est un marché qui est agressif, où il y a des cotations, etc. etc. Est-ce que le statut d'artiste ne peut pas dériver à un moment vers une cotation des tatoueurs avec montée des prix ou carrément descente très rapide, et est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment ou à un autre, prions que ce soit pas le cas, mais sur une location des corps, on a commencé à avoir des entreprises qui payaient leurs employés s'ils faisaient tatouer le logo, ou même une vente des pots, est-ce que ça pourrait arriver, ou comment on peut légiférer ça, comment ça se goupille, sachant qu'aujourd'hui le tatouage est très très souvent photographié, fait l'objet d'un marketing féroce, etc.
Vous avez plein de choses en fait dans votre question. D'abord, dans la culture du tatouage et l'histoire du tatouage, en tout cas l'histoire moderne du tatouage, il y a toujours eu un trafic de peau post-mortem. Il y a des prélèvements depuis que les marins occidentaux sont revenus des îles. Donc ça date du XVIIe siècle. Donc on retrouve des peaux. Il y a eu un gros trafic. Ça existe. C'est quelque chose qu'on peut difficilement. Enfin, aujourd'hui, les morgues sont beaucoup plus surveillées qu'avant. Donc de ce point de vue-là, voilà, dans la culture du tatouage, de toute façon, cette chose-là a toujours existé. C'est très important de ne pas confondre une pièce d'art contemporain qui parle ou qui utilise l'iconographie du tatouage et une pièce de tatoueur. Je dis pas de tatouage, une pièce de tatoueur, parce que les tatoueurs distinguent de façon extrêmement logique le tatouage sur un porteur, c'est-à-dire ce geste qui inclut la relation, la circulation en fait, relationnelle qu'il y a entre le porteur et le tatoueur et qui donne une pièce, et ce qu'ils font, ce qu'ils génèrent en dessin, en peinture, en sculpture. Ce qu'ils génèrent en dessin, en peinture, en sculpture est une peinture, un dessin, une sculpture. Ça n'est pas du tatouage. On parle de tatouage quand on quand est intégré dans la notion le porteur, donc le corps. Et c'est ce qui protège en fait le tatouage de la spéculation du marché de l'art. Le marché de l'art est là pour spéculer. Le marché de l'art spéculera toujours. Mais une chose qu'il ne pourra jamais faire, c'est spéculer sur un corps. Quand on parle de tatouage, Wim Delvoye, par exemple, a commencé à acheter le dos d'un homme qui l'oblige par contrat à s'exhiber en galerie. Il a fait ça, je ne sais plus de quand ça date. Alors tout le monde a dit « Oh, quel génie! Oh, quel inventeur !» Bon, cette chose-là, il l'a observée dans la culture du tatouage. Il l'a kidnappé pour en faire son propre usage et surtout pour faire fonctionner en fait la pompe à fric, mm-hmm. la façon dont pour nourrir le système du marché de l'art. Mais le tatoueur et le tatoué ne se prêteront en fait jamais à ça. Donc en fait, ça n'est même pas un terrain glissant. Mm-hmm. Ça n'est un terrain glissant que pour les gens qui ne connaissent pas bien le tatouage. Voilà. Et quoi qu'il arrive, une pièce de tatouage n'est pas formulée s'il n'y a pas une circulation saine et directe entre le tatoueur et le tatoué. Mmh. Ça, tous les tatoueurs vous le diront, le tatouage est produit de volonté. Et c'est ce qui trouble, hein, c'est ce qui est très troublant pour tous les gens qui réfléchissent d'un point de vue de l'histoire de l'art. C'est que c'est la première, on va dire, c'est le premier courant, c'est la première famille artistique qui utilise un support qui pense, mm-hmm. qui choisit, qui a mal.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est très troublant, mais ça n'est pas parce que le tatouage utilise ce type de, utilise dans le sens littéral du terme, utilise ce support-là qu'il exclut le questionnement de est-ce une œuvre ou pas. Mm-hmm. C'est là tout l'intérêt.
D'accord. Ouais. Alors justement, on va arriver à ma dernière question qui porte sur Hey la compagnie. Vous avez monté un spectacle sur cette exposition comme vous l'aviez fait pour Hey 2 qu'on avait vu d'ailleurs.
Et que vous aviez aimé.
Oh oui. Oh que oui. Oh là là, mon Dieu, ça avait été un régal de rédiger cet article. Justement, alors, comment est-ce qu'on monte un spectacle à partir de ce type d'expo et de ce type de support? Parce que là, pour le coup, d'habitude, les spectacles de Hey numéro 2, vous faisiez vivre un tableau, vous faisiez vivre, c'était quelque chose. Là, il va falloir faire vivre une œuvre sur un corps. Comment vous avez goupillé ça? En plus, vous avez vraiment travaillé sur un historique, etc. Enfin.
D'abord de façon assez simple, quand on imagine une exposition, l'envie d'un spectacle arrive spontanément avec. C'est comme ça. En fait, il y a une espèce de chose que je ne sais pas expliquer. Mmh. Mais voilà, il y a cette envie-là qui est là. Mmh. Il faut le faire. Après, justement, l'idée de commenter ce sujet est de sortir de ce sujet. C'est tout l'intérêt de Elle Accompagnie, mmh. en fait. C'est de se servir d'outils extrêmement différents de ce que le musée nous met directement à dispo, c'est-à-dire montrer des œuvres, montrer des artefacts, construire une scénographie, inventer un parcours. Là, on raconte un sujet à travers la musique, à travers le corps des performeurs, à travers le son de ce que le corps peut générer, et à travers le dessin. Donc en fait, pour répondre directement à votre question, ce qui joint de façon pragmatique le sujet en spectacle, c'est la main, le dessin. Mm-hmm. Donc on a fait rentrer le dessin, ce que vous n'aviez pas vu dans le spectacle mm-hmm. précédent. On a fait rentrer cet outil mm-hmm. dans le spectacle, dans la narration. Mm-hmm. Voilà. Donc on fait du dessin, beaucoup de dessin en direct. Et à travers, en prenant appui sur un motif de tatouage ou sur un fait de l'histoire moderne de l'évolution du tatouage, on extrapole et on raconte une autre histoire. Voilà. Donc on est dans, on continue d'être dans un imaginaire qui reste iconographiquement référentiel, c'est vrai.
D'accord. Oui, puis en plus, là, ça a été mis en place en, en résidant chez Métrop, de ce que j'en ai compris. Ok, donc oui, faut que je le voie, quoi. Il faut que je vienne le voir, d'accord. Si, il y a une dernière question, quand même, qui me titille. Pour le vernissage, ça a été un raz-de-marée médiatique. Il y avait énormément de journalistes présents. Donc, il y avait un peu de presse spécialisée et il y avait beaucoup de généralistes qui étaient là. Selon vous, enfin, alors, qui sont restés très très en surface, est-ce que une exposition avec tout le discours qu'on vient d'avoir là, qui est quand même très pointu, où il y a toute une réflexion, on parle quand même de dessiner sur un corps, alors on parlait de la douleur, etc. Bon. Est-ce que une approche médiatique généraliste suffit à ouvrir les portes, ou est-ce qu'il faut justement peut-être avoir quelque chose qui soit un peu moins spectaculaire et un peu plus fouillé?
Le sens profond de cette exposition, c'était de réussir à partager la vérité d'une histoire qui s'est déroulée de façon totalement fermée et opaque. Donc c'est une très bonne chose d'avoir pu attirer le plus de généralistes possible, puisque dans le tas, il y en a peut-être un ou deux qui va être touché par la profondeur réelle du sujet et qui va faire un vrai bon sujet à destination du plus grand nombre. C'est ça qu'on veut. Mmh. C'est notre façon à nous de lutter contre la popularisation du tatouage qui nous tient tant à cœur. Cette vérité, cette justesse-là, elle ne peut être partagée que dans le dialogue. C'est le dialogue qui fait tout. Et on ne dialogue pas tout seul. Plus on fait des choses qui sont pointues, plus c'est important d'inviter le plus grand nombre pour essayer de choper le seul esprit disponible, peut-être de la foule. Mais c'est comme ça que les mentalités avancent. Enfin, c'est ce que je crois profondément. Ouais. C'est-à-dire qu'on on s'épanouit dans les marges, en cercle fermé et en famille, parce que c'est là où tout pousse. C'est là où on est et c'est là où on mourra. Mais par contre, on vit dans la société, on est campé dans une société qui est réelle, qui existe, avec beaucoup, beaucoup de gens qui ne nous ressemblent pas et qui sont différents. Par contre, quel est le pont, en fait, pour réussir à établir quelque chose de l'ordre de la paix? C'est le dialogue.
Tout à fait.
C'est ce qu'on fait au Quai Branly. Ça, c'est le sens profond, en fait, de l'exposition.
Tout à fait. Et alors,
vive la presse généraliste.
Voilà, et le dialogue. J'en arrive. Voilà, ce sera la dernière parce que sinon je vais pas m'arrêter.
C'est votre troisième dernière.
C'est ma troisième dernière. Jamais 203. Vous êtes tout le temps dans le fait d'apprendre. Ça se voit quand vous êtes sur une expo, il faut apprendre. Qu'est-ce que cette expo, qui est quand même la première du genre, vous a appris sur vous, sur votre travail?
Sur le travail, tellement de choses. Waouh.
Fallait bien que j'en pose une qui soit méchante quand même.
Non, c'est pas du tout méchant. Au contraire, quel serait l'intérêt de monter, en fait, de se lancer des défis comme ça, incroyables, si on n'apprenait pas en cours de route? Ça servirait absolument à rien. Le catalogue est un très beau catalogue d'exposition, voilà. Pas simplement parce que c'est nous qui l'avons fait, mais parce qu'on est passé par un process qu'on ne connaissait pas, nous, d'un point de vue de travail. Voilà. On a été directeur d'ouvrage et ça nous a conduit à travailler de façon assez particulière avec des gens qui ont des cursus scientifiques. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et assez nouveau, très nouveau pour nous. Et vraiment très, très, très nourrissant, très intéressant. Très difficile et compliqué aussi. Et puis, c'était la première fois aussi qu'on travaillait avec une équipe de production. Là, c'est sur l'exposition, aussi dynamique que ça. C'est-à-dire une équipe de production qui... Nous, on est vraiment des indépendants. Donc, on a l'habitude de tout faire tout seul et tout faire nous-mêmes. Et donc là, tout d'un coup, on se retrouvait avec des interlocuteurs extrêmement capables et qui arrivaient aussi à anticiper comme nous, et qui non seulement anticipaient, mais apportaient des solutions, et étaient très très efficaces. Donc ça, ça n'a été que des leçons, très agréables, surprenantes aussi, puisqu'on ne s'attendait vraiment pas autant d'efficacité, en fait, en face. Donc ça nous a appris plus de fluidité aussi dans la façon de faire, dans la façon de travailler. Et ça nous a appris aussi peut-être à avoir plus confiance en l'extérieur. Ce qu'on n'a pas forcément quand on est vraiment indépendant, on a tendance à être très très méfiant en fait avec l'extérieur et à ne croire que ce qu'on sait faire nous très très bien. Voilà. Donc ça a été une grande leçon de travail de ce point de vue-là.
Ok, bon, bah, j'en pose plus. C'est bon, c'est fini. Merci beaucoup.
Merci.